Un sélectionneur de l'équipe de France victime d'une tentative d'enlèvement. Vous connaissez l'histoire ? Il a même déjoué le kidnapping. Le 23 mai 1978, Michel Hidalgo quitte son domicile près de Bordeaux, à la veille de s'envoler pour la Coupe du Monde en Argentine. Il est avec sa femme en voiture, direction la gare de Bordeaux, et une Citroën immatriculée 92 lui fonce dessus. Il est obligé de s'arrêter. Trois hommes surgissent, il semble avoir un accent latino. Hidalgo est tenu en joue, il est emmené vers un petit bois. Le coach des Bleus va jouer héros, il bouscule l'un des agresseurs et récupère le pistolet à terre, ce qui fait fuir les trois malfrats. Michel Hidalgo porte plainte au poste. Il a raté son train, alors la police l'escorte jusqu'à l'aéroport de Bordeaux pour prendre un vol pour Paris. Arrivé à Roissy, un service de sécurité l'attend aussi. L'enquête visera alors des organisations d'étudiants d'Amérique du Sud sans trouver les coupables. Hidalgo pense un temps à démissionner, mais il s'envole bien avec ses 22 joueurs pour le Mondial en Argentine. Vous écoutez Golasso, le podcast de Sport.fr. Je suis Jess Gron. Je vous raconte la Coupe du Monde la plus scandaleuse de l'histoire. À quelques mois de la compétition, des appels au boycott sont lancés dans le monde entier. Surtout en Europe, un mouvement dénonce le processus génocidaire entrepris par le régime ultra-autoritaire de Videla en Argentine. Amnesty International, par exemple, dit « Lorsque vous applaudirez le 11 de France, les acclamations couvriront les bruits des personnes torturées. » Les militants de gauche lancent le COBA, le comité pour le boycott de l'organisation par l'Argentine de la Coupe du Monde, et organisent des manifestations à travers le pays. « Pas de football entre les camps de concentration !» C'est l'un des slogans, vous allez voir pourquoi. Une pétition pour le retrait de l'équipe de France réunit 150 000 personnes. Le gouvernement de droite de Valéry Giscard d'Estaing refuse de se prononcer, alors qu'il est au courant des agissements de Videla. La France a obtenu la libération de deux enfants d'une Française assassinée en Argentine en novembre 1977. Mais même les partis de gauche ne veulent pas se mouiller. Lionel Jospin dit « Nous demandons le boycott de l'Argentine, pas de la Coupe du Monde ». Cela dit, grâce aux manifs, la France entière est désormais au courant de la situation ignoble en Argentine. Une junte militaire, c'est-à-dire une association de chefs militaires, a pris le pouvoir en 1976. Le général Jorge Rafael Videla est aux commandes. La junte a non seulement été aidée financièrement par les États-Unis, en secret, lors du coup d'État, mais le secrétaire d'État américain Henry Kissinger donne aussi le feu vert à la politique sanguinaire de Videla. On appelle ça alors la guerre sale. Le général veut stopper le cancer marxiste et défendre la grandeur de la civilisation catholique contre les rouges et les juifs. Des journalistes, des intellectuels, des syndicalistes et surtout des opposants politiques et les sympathisants communistes sont dans le viseur. Ça représente 300 000 personnes dans le pays. Ils seront jusqu'à 30 000 à être enlevés durant 6 ans. On les appelle les desaparecidos, les disparus. Une partie des enlevés sont torturés à l'école de la marine. C'est en plein Buenos Aires. À 800 mètres du Monumental, le stade de River Plate, où va se jouer Argentine-France, puis la finale du Mondial. La FIFA avait donné la Coupe du Monde à l'Argentine en 1966, et elle maintient la compétition dans ce pays. Pas question de faire capoter le premier deal XXL de l'instance, un sponsoring de 8 millions de dollars avec Coca-Cola. Coca-Cola, une entreprise américaine qui a pleinement profité du sport pour bâtir son hégémonie mondiale, pour le pire et pour le meilleur. Sa boisson vedette contribue aujourd'hui au surpoids de 70% des Mexicains. Le mondial de foot est déjà l'événement le plus suivi au monde. Ça fait le bonheur d'un Videla qui a le génie à l'époque de penser qu'une Coupe du Monde allait faire oublier la répression dans son pays et légitimer sa politique sur la scène internationale. On n'appelle pas ça encore du soft power, mais tout simplement de la propagande. On est en 78, bien avant les Coupes du Monde controversées en Russie et au Qatar, et la World Cup l'an prochain chez Donald Trump. L'équipe de France débarque donc en Argentine. Pas question de se retirer du tournoi pour contester un génocide en cours.
Nous n'allons pas en Argentine pour rencontrer les généraux, comme vous dites, pour rencontrer le gouvernement argentin. Nous y allons, nous, dans l'espoir de rencontrer des sportifs.
Michel Hidalgo.
Et de rencontrer un peuple qui viendra nous voir jouer.
Michel Platini veut absolument disputer la Coupe du Monde, par exemple. J'irai à la nage, à Buenos Aires, s'il le faut. Platoche, 22 ans, c'est le nouveau joueur vedette des Bleus. Il joue encore à Nancy et vient de finir 3e du Ballon d'Or. Dominique Rocheteau n'est pas plus vieux. Mais il est lui touché par le mouvement contre l'Argentine de Videla. Il veut porter un brassard noir durant les matchs. Mais seuls 4 coéquipiers le rejoignent à la réunion qu'il a organisée avec Bernard-Henri Lévy à l'hôtel des Bleus. Finalement, Rocheteau ne porte aucun signe de contestation durant cette Coupe du Monde. Et pour l'équipe de France, l'aventure tourne rapidement à la catastrophe. Déjà, les joueurs de Michel Hidalgo vivent dans des conditions épouvantables. Bon, dixit Maxime Bossis. Quand les dirigeants de la FFF sont installés dans un hôtel de luxe, avec leur compagne, Les joueurs dorment dans des chambres minuscules et les femmes des dirigeants s'invitent aux entraînements comme si c'était un club de vacances. Elles utilisent le bus des joueurs pour aller faire du shopping. Ça a dû beaucoup chanter Michel Sardou, qui était la superstar de la chanson à l'époque. Les Bleus sont éliminés dès le premier tour. Marius Trésor et ses coéquipiers perdent d'abord contre l'Italie, malgré un but dès la 40e seconde.
Et une tête et un but. Alors à peine le temps de souffler, voici le premier but pour l'équipe de France. C'est un but sensationnel, marqué par les Français. J'ai l'impression que c'est la tête de Lacombe, mais j'aurais besoin de confirmation. Bien que l'on nous montre Michel ici, je ne sais pas davantage que vous, j'ai même c'est sans doute Michel.
Ouais, c'est pas Henri Michel, mais Bernard Lacombe qui marque ce premier but du tournoi et qui veut recevoir une montre en or pour l'occasion. Puis l'équipe de France sombre contre l'Argentine, 2-1, dans l'ambiance de dingue de l'Estadio Monumental, avec un pénalty peu évident accordé aux Argentins et un pénalty non accordé à Didier Six. Pour le gardien des Bleus, Jean-Paul Bertrand-Demann, tout était fait pour que l'Argentine remporte cette Coupe du Monde. Platini avait égalisé à la 60e, le numéro 15 d'alors n'avait pas encore Alain Giresse et Jean Ticana autour de lui. Entre les deux défaites, les joueurs sombrent dans une polémique ridicule, que l'on nomme la révolte des pinceaux. Les Bleus réclament une prime Adidas, mais c'est refusé. Et l'équipementier rappelle aux joueurs de repasser du blanc sur le logo avant de rentrer sur le terrain. Les joueurs répliquent, ils mettent du cirage sur les trois bandes. Scandale en France, où l'on tombe sur des footballeurs vus comme des gamins pourris gâtés. Pour le troisième et dernier match, l'amateurisme de la FFF est total. C'est le fameux match de Coupe du Monde où l'équipe de France joue avec un maillot aux rayures vertes et blanches. Pour affronter la Hongrie, la sélection française va à Mar del Plata avec un jeune maillot blanc, alors que la FIFA lui avait demandé de venir en bleu. La Hongrie n'a que du blanc, alors la délégation française récupère in extremis les maillots de l'équipe du coin, le club Atlético Kimberley. Victoire 3-1 contre la Hongrie, troisième but signé Rocheteau. La suite de cette Coupe du Monde 78 offre d'abord un clin d'œil de l'histoire. L'Argentine finit deuxième de cette poule et quitte Buenos Aires pour jouer la deuxième phase de groupe à Rosario, la ville de naissance d'Ernesto Guevara. Le Che Guevara, le Comandante, qui a aidé à renverser la dictature à Cuba en 59 et qui est le symbole des mouvements révolutionnaires en Amérique latine et dans le monde entier. Les Argentins font 0-0 contre le Brésil de Zico et pour se hisser en finale de la Coupe du Monde, ils doivent largement gagner contre le Pérou lors du troisième match. Bon déjà, Brésil-Pologne est programmé 3 heures avant. Les Brésiliens demandent à jouer en même temps que l'Argentine, mais la FIFA refuse. Les Oriverdés gagnent 3-1. Et les Argentins savent alors qu'une victoire 4-0 est nécessaire pour finir premier. Notez que le format de ce mondial est cataclysmique. Ça nous donne ainsi le match de la honte. L'Argentine gagne 6-0 face à des Péruviens certes déjà éliminés, mais le malaise est total. Le match a été arrangé, voilà tout. Les joueurs péruviens racontent que le général Videla est venu dans leur vestiaire avant le match pour lire une lettre du chef d'État péruvien. On appelle ça un coup de pression. Et oui, derrière ce 6-0 se cache un accord entre Videla et Francisco Morales Bermudez à la tête de la dictature militaire au Pérou. C'est l'un des nombreux accords de l'opération Condor. Et je parle pas d'El Condor, l'attaquant péruvien passé par l'OM nommé Andrés Mendoza. Pour arranger ce match, Videla aurait promis 50 millions de dollars au gouvernement péruvien ainsi que 35 000 tonnes de céréales. Le virement et la livraison à Lima se font quelques jours après la Coupe du Monde. En 2018, un joueur péruvien titulaire à ce jour-là, José Velázquez, assure que 6 de ses coéquipiers avaient été achetés, en mentionnant le gardien de but Ramón Quiroga, un Argentin naturalisé péruvien. Quiroga se défend. Il dit que l'arbitre a validé 2 buts entachés d'un hors-jeu. Sur ce 6-0, c'est l'arbitre français Robert Wurtz qui officie. En 2015, on découvre un autre pacte pour truquer cette Argentine-Pérou, et c'est complètement dingue. Videla aurait accepté de récupérer 14 opposants politiques péruviens afin de les tuer en dehors du Pérou en les jetant à la mer depuis un avion. Bon, l'Argentine est en finale et c'est aussi le succès de César Luis Menotti, un entraîneur adepte d'un beau football qui a écarté un prodige de 20 ans nommé Diego Maradona. On se retrouve donc au Monumental pour un dénouement contre les Pays-Bas. On est toujours à quelques pas du camp de concentration, mais le peuple argentin n'a plus qu'une idée en tête, être champion du monde pour la toute première fois. Videla a déjà gagné. Pour la petite histoire, Johan Cruyff a renoncé au Mondial 78 et on a longtemps pensé que c'était pour protester contre la dictature en Argentine. En 2008 seulement, il a expliqué avoir arrêté l'équipe nationale en 78, juste après avoir été victime d'un violent homejacking à son domicile de Barcelone. Venga. Les Oranges sont en terrain ennemi. Ils sont réveillés dans la nuit, dans leur hôtel, et ils vont étouffer dans le cratère du Monumental. Les dirigeants argentins essaient de retarder le coup d'envoi du match. Ils contestent le plâtre de René Van de Kerkhoff. Johnny Rep et ses coéquipiers se retrouvent seuls sur le terrain avant le coup d'envoi, conspués par le public, ciblés par les jets de papier toilette. Les joueurs argentins entrent à la dernière minute sur la pelouse, dans une ambiance complètement dingue. Le match est indécis, l'Argentine est sauvée par son gardien, Ubaldo Fiol, et finit par l'emporter en prolongation, grâce à un deuxième but de son buteur, Mario Kempes. Première étoile pour l'Albi Celeste, 44 ans avant la Tercera, remportée par Lionel Messi au Qatar. Jorge Videla donne le trophée de la FIFA à Daniel Passarella, devant des supporters en transe. Mais Menotti sait qu'il participe à cette propagande honteuse. Avant la rencontre, il rappelle aux joueurs qu'ils jouent pour le peuple, pas pour les militaires en tribune, et qu'ils sont aussi victimes de la dictature. Les joueurs néerlandais ne vont pas recevoir leur médaille, ils ne veulent pas serrer la main au dictateur. La Coupe du Monde 78 entre dans la légende comme étant la Coupe du Monde la plus scandaleuse de l'histoire. À l'été 78, le bilan de la répression s'élève à plus de 20 000 morts. C'est 5 ans plus tard que la dictature militaire laisse sa place à un gouvernement élu démocratiquement après la défaite lors de la guerre des Malouines contre le Royaume-Uni. Videla, la star de la Coupe du Monde 78, grâce à la FIFA, passe le reste de sa vie à être condamné pour les crimes qu'il a commis. Je finis cet épisode de Golasso par un petit mot sur cette guerre des Malouines, qui a directement créé la rivalité Argentine-Angleterre. Les îles Malouines, au sud de l'Argentine, forment un territoire britannique. Et Videla part à l'attaque début 82. Le conflit aérien et naval dure 72 jours avant la défaite argentine. L'Argentine prendra sa revanche sur l'Angleterre à la Coupe du Monde 86. En quart de finale, lors du doublé légendaire de Diego Maradona, les deux buts sont entrés dans l'histoire. On les surnomme la main de Dieu et le but du siècle. Voilà, maintenant vous savez tout s'il y a un Argentine-Angleterre à la Coupe du Monde 2026. Je vous donne rendez-vous à bientôt dans Golasso.
Golasso. Golasso, le podcast football de sports.fr.